Les crabes bleus de Miami par José Moselli. Un malheur n'arrive jamais seul. Chassé par sa logeuse qu'il n'avait pas payée depuis 3 mois, l'estomac vide et les souliers béants, Arthur Hoglos, cheminant sous la pluie glaciale à travers les rues de Londres, se répétait pour la 100e fois que le proverbe cité plus haut était pour lui d'une cruelle actualité. Arthur Hoglos était clerc de notaire, c'est-à-dire qu'il l'avait été. Car 4 mois s'étaient écoulés depuis que son patron, l'honorable John Stockman, avait dû se priver de ses services. Or donc, Arthur Hoglos, l'estomac dégarni et les pieds trempés, se demandait mélancoliquement comment il pourrait remplir le premier et chausser les seconds lorsqu'un passant dont l'aspect était aussi minable que le sien le heurta. Tout loqueteux et marmiteux qu'il fût, Arthur Hoglos avait gardé sa fierté. Il se retourna vers le fâcheux et le gratifia d'un « Vous ne pouvez donc pas faire attention, idiot ? Tiens, ce cher Arthur !» Arthur Hoglos reconnut son ancien camarade d'école, Jimmy Simpson, et lui tendit la main. « Comment va, Jimmy ?»«
Doucement. »
Malgré son aspect calamiteux, Jim Simpson recelait encore dans sa poche quelques shillings. Il invita Hoglos à célébrer avec lui dans le bar le plus proche l'heureux hasard qui réunissait les deux camarades. Hoglos accepta sans belle manière. Lors donc que les deux compères se furent humectés le gosier avec les 3/4 d'une bouteille de whisky vaste et rebondi, Jimmy, baissant la voix, affirma avec énergie à Hoglos qu'il était vraiment heureux de l'avoir rencontré.
« Moi aussi, » dit Hoglos sincère, en se versant négligemment le reste du whisky.
« Si on dînait ici, » insinua-t-il.
« Mais oui. »«
Ah, je te disais que j'étais heureux de t'avoir rencontré. Tu vas voir pourquoi. Notre fortune est... Garçon !» « Servez-nous à dîner !» interrompit Hoglos, soucieux de profiter des bonnes dispositions de Jimmy Simpson sans perdre de temps.
« Je te dis que notre fortune est faite, tu entends ? Écoute-moi bien.
Je viens de faire un voyage d'Australie sur le Caledonia de la PEO, abréviation de la Compagnie Péninsulaire Orientale, où j'étais matelot. Pendant la traversée, je fis connaissance avec un pauvre diable de passager de 3e classe qui se prit d'amitié pour moi. Il me raconta qu'il venait de la Nouvelle-Zélande, où il avait découvert un endroit qu'il me désigna de riches gisements d'or. Comme je n'avais pas l'air de le croire, il me fit voir quelques pépites cachées dans sa ceinture. « Tu sais, mon vieux Hoglos, que je suis un homme sérieux. Je résolus de m'associer avec ce passager providentiel afin d'aller rendre une visite avec lui à l'endroit où se trouvaient les bienheureuses pépites. Malheureusement pour moi, il mourut pendant la traversée. On l'immerge dans la mer rouge entre Périm et Suez. Je restais seul détenteur de son secret.
Si ça te va,
je t'emmène.
Et notre fortune est faite. »
Tandis que Jimmy parlait ainsi, le garçon avait apporté la soupe et l'appétit aiguisé par un jeune de 48 heures, Arthur Hoglos, baffrait avec énergie. La bouche pleine, il répondit
« Moi je veux bien.
Mais dis donc, c'est loin la Nouvelle-Zélande. Qui paiera le voyage ?»
« Tu as de l'argent, toi ?»«
Il me reste 8 shillings et 4 pence, » répondit simplement Jimmy.
« Alors comment veux-tu que nous gagnions la Nouvelle-Zélande ? »
Jimmy haussa les épaules. « C'est ça qui t'embarrasse ? » On n'a qu'à s'embaucher matelot sur un paquebot de l'Orient Line. À Brisbane, nous déserterons et essaierons de trouver un bateau qui nous mène à Auckland. » Arthur Hoglos, convaincu, se déclare prêt à suivre Jimmy au bout du monde et, sans demander d'autres explications, s'occupa à ingurgiter autant de victuailles que son estomac vide pouvait en contenir. Les deux nouveaux associés allèrent ensuite se coucher dans la chambre sordide qu'habitait Jim Simpson et dès le lendemain s'occupèrent à chercher un emploi de matelot sur un navire allant en Australie. La chance leur fut favorable. 2 jours plus tard, ils s'embauchaient sur leur muse en partant pour Brisbane. Réflexion faite, Arthur Hoglos, qui ne se sentait aucune vocation pour le métier de matelot, persuada Jimmy de déserter à Sydney. Sitôt leur muse à quai, les deux compères, sous le prétexte de faire une commission en ville, descendirent à terre et on ne les revit plus. Ils attendirent patiemment le lendemain, cachés dans une chambre d'hôtel payée avec l'argent que Hoglos avait emprunté au bossman, le maître d'équipage de leur muse, et dès que le paquebot eut repris la mer, se mirent à la recherche d'un navire allant en Nouvelle-Zélande. Ils le trouvèrent le même jour. C'était un vieux et massif cargo,
un bateau ne transportant que des marchandises, appelé Parramatta. Goggles y fut embauché en qualité d'aide de cuisine, cependant que Jimmy était agréé comme matelot. Le Parramatta, après 6 jours d'une pénible navigation à travers les hautes lames de la mer du Sud, débarqua les deux amis à Auckland. Je vais maintenant te dévoiler où se trouvent les bienheureux gisements, dit Jimmy à Goggles, sitôt qu'ils furent débarqués. C'est à 60 milles d'ici, près de la lagune de Kaipara, dans une crique appelée Miami. Notre fortune est faite, Arthur. Bien qu'Arthur partageait cet avis, il demanda : Et comment y va-t-on ?
Oh, ce n'est pas difficile, affirma Jimmy. On n'a qu'à affréter une goélette. En quelques heures, on y arrive.
Cela coûte cher d'affréter une goélette.
Oh, 4 ou 5 livres par semaine, je crois.
Alors nous sommes sûrs de ne jamais devenir riches, observa Goggles.
C'était lui qui tenait la bourse commune et celle-ci comptait juste 13 shillings.
Laisse-moi faire, dit Jimmy. Avant ce soir, j'aurais trouvé un commanditaire.
Légèrement sceptique, Goggles enregistra en silence cette affirmation audacieuse et, suivi de Jimmy, s'en fut louer une chambre. Cette précaution prise, Jimmy partit à la recherche du commanditaire après avoir donné rendez-vous à son associé dans un bar-room proche. À l'heure convenue, Goggles s'y trouva et sa stupéfaction fut grande en voyant arriver Jimmy accompagné d'un chinois maigre et souriant.
« Mon cher Goggles, je te présente M. Chimfat, à qui j'ai conté notre affaire et qui veut bien nous accompagner. »
Goggles s'inclina.
« Oui, zézéya le céleste, M. Simpson m'a conté votre affaire. Je possède une goélette, le papa Koura. Elle nous mènera à l'endroit où, d'après M. Simpson, se trouvent les placeurs.
Et je vous fournirai tous les instruments nécessaires à l'extraction de l'or.
En retour, nous partagerons le minerai.
C'est bien ainsi, M. Simpson.
Parfaitement. Acquiescèrent à la fois Jimmy et Arthur. La papa Koura était dans le port. C'était une petite goélette de 40 tonneaux, vieille et sale.
Chimfat et ses associés s'y rendirent après que le Chinois eut fait transporter à bord le matériel pour extraire l'or. L'équipage, en plus de Chimfat, Goggles et Simpson, se composait tout uniment d'un vieux Maori à la fois matelot, capitaine, mousse et cuisinier. La goélette, malgré sa vieillesse, était bonne marcheuse. Partie d'Auckland à 10 heures du soir, elle vint mouiller le lendemain au jour dans la lagune de Kaipara. Chimfat et les deux Européens, laissant le navire sous la garde du vieux Maori, débarquèrent aussitôt avec leurs ustensiles pour aller à la recherche du précieux métal.
« C'est dans la crique de Miami que doit se trouver l'or, » précisait Jimmy Simpson.
Après 3 heures de marche, en suivant le rivage alternativement vaseux et rocheux, les trois hommes y arrivèrent. S'étant réconfortés d'un sommet repas, ils se mirent aussitôt au travail. On était en décembre. Un chaud soleil pompait l'eau stagnante de la crique et faisait monter vers le ciel une imperceptible buée. Acharné et suant, le Chinois et ses compagnons fouillaient la terre humide. Pendant plusieurs heures, ils ne trouvaient rien, mais sans une plainte, ils continuèrent leurs recherches. Le soleil atteignait le bord de l'horizon lorsque Arthur Goggles, lâchant sa pioche, releva sa face congestionnée et brandit triomphalement une pépite tachée de sable de la grosseur d'une orange.
« Hurrah ! »
hurla-t-il, la bouche élargie de joie, les yeux brillants. Simpson et Chimfat se précipitèrent vers lui et, ayant aperçu la pépite, joignirent leurs exclamations aux siennes.
« Elle vaut au moins 200 livres !»
dit le Chinois après avoir soupesé la précieuse orange.
« Et ce n'est pas fini !»
fit Jimmy. « Hein ? Je vous avais bien dit que l'endroit était bon. Mon passager ne m'avait pas trompé. »«
Dressons la tente !» dit Goggles, toujours pratique. « La nuit vient. Je suis fatigué et j'ai faim. »«
Moi aussi !» ajouta Jimmy.
Arthur Goggles était un excellent cuisinier. Il se fit bien voir. En un tour de main, il eut allumé le feu dans un creux de rocher. Et 10 minutes plus tard, les 3 chercheurs d'or se régalaient d'une boîte de corned beef préparée et cuite par les soins de l'inestimable Goggles. Ce rudimentaire repas terminé, les 3 aventuriers se coulèrent sous la minuscule tente de toile qu'ils avaient emportée et s'étant roulés dans une couverture, ne tardèrent pas à s'endormir. Ne pouvant, à cause de son poids et de sa grosseur, insérer dans sa ceinture la pépite qu'il avait trouvée, Goggles, avant de se coucher, l'avait enfoui au pied du mât soutenant la tente. Par suite des émotions ressenties dans la journée, le brave Arthur dormit d'un sommeil agité.
Vers minuit, il s'éveilla. À la lueur de la lune, dont les rayons filtraient à travers les trous de la toile de la tente, il lui sembla apercevoir Jim Fat debout penché sur Jimmy. Croyant être le jouet d'un rêve, Goggles, encore mal éveillé, se frotta les yeux et se dressa sur son séant. Mais il avait bien vu. Il entendit à ce moment Jimmy Simpson pousser un profond soupir. Le Chinois se releva, aperçut Goggles qui s'est élevé, et la main armée d'un couteau sanglant bondit sur lui. Arthur Goggles était sans armes, mais c'était un homme ingénieux. Il se débarrassa de sa couverture et d'un simple mouvement en coiffa le céleste. Puis, sans attendre, il souleva la portière de toile de la tente et s'enfuit droit devant lui, poursuivi par Jim Fat. Arthur Goggles ne s'était de sa vie entraîné pour la course à pied. Cependant, il est certain que ce jour, ou plutôt cette nuit-là, il lui approchait de bien près le record du monde de la course à travers la campagne. Devant lui, il s'étendait une vaste lande d'ajoncs qui délimitait d'un côté une succession d'éboulis rocheux allant se perdre dans la masse du rivage. La crique était déserte. Sur l'eau aussi unie qu'une plaque de métal, la lune se réfléchissait nette et éclatante et découpait en noir la coque et les moindres agrès de la goélette mouillée à 2000 au large. Haletant, les poings serrés, les mâchoires contractées, Arthur Goggles bondissait à travers les ajoncs. Il entendait distinctement le bruit des pas de Jim Fat qui semblait se rapprocher. Fort heureusement pour lui, les ajoncs très hauts le dissimulaient en partie et empêchaient le Chinois de l'apercevoir, sans quoi un coup de fusil eût à la fois terminé sa course, sa vie et ses rêves de fortune. Une heure durant, Arthur Goggles parvint à maintenir la distance qui le séparait de l'implacable Chinois. Sans s'en apercevoir, Goggles avait suivi les bords de la crique et se trouvait maintenant juste en face du point où était mouillée la goélette. Une idée germa dans son cerveau. Ce serait vraiment admirable s'il parvenait à gagner la goélette avant Jim Fat. Il s'en emparerait et irait à Auckland prévenir les autorités du crime commis par le Céleste. Goggles était bon nageur. Il résolut d'exécuter immédiatement son projet et sans cesser de courir, se rapprocha peu à peu des rocs bordant la lande afin de choisir un endroit propice pour descendre sur la plage. Tout à coup, il sentit qu'il enfonçait. Vainement, il voulut s'arrêter, se retenir. Trop tard, il était lancé. Le sol manqua sous ses pieds. Des brindilles d'ajoncs lui fouettèrent violemment le visage. Il s'aplatit rudement sur un fond de vase molle. Étourdi par la violence de sa chute, Goggles resta quelques instants sans mouvement. Mais ce n'était vraiment pas le moment de se poser. Goggles respira fortement et essaya de se dresser. Une douleur aiguë qu'il ressentit à la cheville droite l'en empêcha. Se raidissant, le brave Arthur recommença sa tentative. Bien inutilement. Dans sa chute, il s'était foulé la cheville et avait par suite la jambe complètement immobilisée. Goggles se traîna jusqu'à une encoignure de roche contre laquelle il s'appuya et sans souci d'altérer la vérité, murmura « Me voilà joli !» Le fait est que dans sa course, il avait perdu sa casquette. Ses cheveux roux étaient ébouriffés, sa barbe pas faite depuis 8 jours, et sur ses vêtements rapiécés s'étalaient de larges plaques de vase. Il regarda autour de lui. Il était dans une grotte circulaire communiquant avec la plage par une étroite ouverture large d'environ 1 mètre et haute de moitié. Le sol se composait de vases à travers laquelle transparaissaient quelques têtes de rochers. Au-dessus de sa tête, Goggles aperçut le trou, dissimulé par des ajoncs par lequel il était tombé. Maintenant, il n'entendait plus le bruit précipité des pas du Chinois. Le silence était complet. Goggles hocha la tête et, avec précaution, entreprit de délacer son soulier droit. Sa cheville le faisait cruellement souffrir. Ayant enlevé son soulier, Goggles constata que son pied était enflé et se demanda comment allait finir cette aventure. Certes, si le pauvre Jimmy eût été à ses côtés, il lui eût sévèrement reproché de l'avoir entraîné dans une si malencontreuse affaire. Arthur Goggles, maintenant, regrettait de n'être pas à Londres à claquer des dents sous la pluie. En ce temps-là, il lui était permis d'espérer, tandis qu'à présent... Le jour se levait. Par l'étroite ouverture de la grotte, une mince bande blanche apparut, les premiers rayons du soleil levant. Arthur Goggles, occupé à frotter doucement sa cheville malade, entendit un léger frôlement sur le sable. Il leva la tête et ses yeux s'arrondirent de terreur. Par l'issue faisant communiquer la grotte avec le rivage, qu'il bouchait presque entièrement de sa masse, un énorme crabe bleu, tanguant, roulant, les pinces en avant, s'avançait lentement. Les lueurs blêmes de l'eau faisaient luire sa carapace humide et rugueuse et ses effrayantes pinces luisantes et dentelées comme des scies. Ses fines pattes se mouvaient avec lenteur en faisant crisser le sable. Goggles vit avec terreur que l'immonde animal le regardait. Le crabe dardait en avant ses yeux noirs et cornés, dont les extrémités se dirigeaient avec insistance du côté du malheureux Anglais. Arthur en oublia pour un instant son pied foulé, et sans songer à ramasser son soulier, se leva et entreprit d'escalader les parois rocheuses de la grotte. Avec une énergie que le désespoir centuplait, il parvint à se hisser sur une arête de roc située à 2 mètres de hauteur où il se maintint en équilibre. De là, il vit le crabe saisir son soulier dans une de ses mandibules et d'un coup le couper en deux comme s'il eût été fait de beurre. Cette image du sort qui lui était réservée le rembrunit. Sa cheville commençait à le faire cruellement souffrir, et il sentait les arêtes aiguës du roc où il était accroché pénétrer dans sa chair. Il ne tiendrait certes pas très longtemps dans cette pénible position, mais alors ? Par l'ouverture de la grotte, Goggles vit successivement 2 autres crabes bleus, aussi énormes, aussi repoussants que le premier arrivé. Les 3 horribles bêtes vinrent avec des mouvements gauches se placer en dessous de la roche sur laquelle Goggles était juché, et élevèrent vers lui leurs mandibules luisantes. Elles s'ouvrirent et se fermèrent avec des claquements secs qui firent passer des frissons dans le dos du pauvre Arthur. « Cette fois, je crois que leur dîner est prêt, » dit-il tout haut. Goggles ne croyait pas être si bon prophète. Une masse jaune et noire à laquelle pendait un fusil passa 2 mètres de lui et vint s'aplatir sur un des crabes. C'était Master Chinfat qui faisait son entrée dans la grotte par le même chemin que Goggles. Si le Chinois se fit une entorse dans sa chute, du moins il n'en souffrit pas longtemps. Avant qu'il eût repris ses esprits, les crabes étaient sur lui. Il poussa un hurlement terrible. Un des crabes venait de lui détacher un bras avec promptitude et délicatesse. Perché sur sa roche, Arthur Goggles vit les 3 horribles bêtes dépecer l'astucieux Chinfat et pensa avec raison que ce n'était pas pour rien que la Providence avait envoyé le Céleste se faire dévorer à sa place. Jouant le tout pour le tout, Arthur voulait essayer de profiter de ce que le crabe était occupé pour fuir. Sans cesser de les surveiller, il se laissa dégringoler de son perchoir et à cloche-pied se dirigea vers l'ouverture de la grotte. Il faillit trébucher contre le fusil du Céleste et en homme soigneux le ramassa et en passa la bretelle à son épaule. Puis, ayant jeté un dernier coup d'œil sur les crabes, il se baissa et s'introduisit dans l'étroite ouverture. Il l'avait presque franchi lorsqu'il se sentit retenu. Son cœur serré d'une atroce angoisse faillit s'arrêter de battre. D'un suprême sursaut d'énergie, il regarda derrière lui. C'était une aiguille de roche qui avait accroché sa veste. Mais un crabe se dirigeait lentement vers lui. Arthur Goggles, d'une formidable secousse, arracha sa veste au rocher, parvint à sortir de l'ouverture et bondit affolé droit devant lui au moment où le crabe allait lui saisir le pied. Après avoir parcouru environ 50 mètres, Goggles, à bout de force, se laissa tomber sur le sable. Devant lui s'étendait la crique de Miami que le soleil levant faisait étinceler comme une conque de nacre. Quelques sarcelles, volant à tire-d'ailes, pointillaient le ciel clair. Arthur Goggles respira longuement et trouva que la vie était belle. Puis il pensa de nouveau à son pied qui le faisait souffrir. S'aidant du fusil de Chinfat comme d'une béquille, Goggles se leva et résolut avant toute chose d'aller déterrer la précieuse pépite qu'il avait enfouie la veille au pied du mât soutenant la tente. Au prix de 1000 difficultés, risquant de se rompre le cou, Goggles parvint à escalader la falaise de rocher et se retrouva sur la lande d'ajonc au milieu de laquelle était dressée la tente. Clopin clopant, Goggles y arriva. Il souleva la toile servant de porte et du premier coup d'œil aperçut béant le trou dans lequel il avait enterré la veille sa pépite. « Fripouille de Chinois » sacra-t-il, et de saisissement, il lâcha le fusil lui servant d'appui, poussa un cri de douleur et s'écroula sur le sol. Il sentit sous lui une humidité et s'aperçut qu'il s'était étalé dans une mare de sang, provenant du pauvre Jimmy dont le cadavre, aplati sur le sol, commençait à sentir.
Goggles eut un frisson et péniblement se releva. Dans un coin de la tente, quelques boîtes de bœuf conservées étaient posées. Il en ouvrit une et en dévora le contenu.
Réconforté, il se munit de cartouches et enveloppa tant bien que mal son pied malade. Ses soins terminés, Arthur Goggles alla s'asseoir sur l'herbe et réfléchit.
Séjourner plus longtemps à Miami était impossible. D'autre part, Jim Fatt avait certainement emporté avec lui la précieuse pépite. Convenait-il que lui, Goggles, risquât de se faire dévorer par les crabes bleus pour essayer de récupérer son bien? Mais sans argent, que ferait-il à Auckland où il ne connaissait personne? Il y mourra de faim, très certainement.
Réflexion angoissante. Mourir pour mourir, mieux valait risquer le tout pour le tout. S'il réussissait, ce serait la fortune. Avec un soupir, Goggles se leva et, pris d'une idée subite, alla chercher le revolver que le pauvre Jimmy avait à sa ceinture. Puis, à pas inégaux, il se dirigea vers la grotte des crabes, aidé de son fusil en guise de béquille. Étant descendu sur la plage, il arriva devant l'orifice de l'antre. Les crabes y étaient-ils?
Afin de le savoir, Goggles, coup sur coup, déchargea les 6 balles de son revolver dans l'intérieur de la grotte.
Il écouta. Rien. Pas un bruit. Les immondes bêtes, le repas terminé, étaient sans doute reparties.
Une légère sueur aux tempes, les mains moites, Goggles, ayant rechargé son revolver, se coula dans l'étroite ouverture. Une fois dans la grotte, il se redressa et regarda avidement autour de lui. Il n'aperçut que le squelette poli et net de Jim Fatt, et à la lueur du soleil passant au travers du trou par lequel il était tombé la veille, Goggles vit étinceler la précieuse pépite.
Avec un cri de joie, il s'en saisit,
la passa dans sa ceinture et sortit rapidement de la grotte. Il était temps. À 10 mètres de l'ouverture, un des crabes de la veille, encore à demi recouvert d'eau, s'avançait, les pinces en avant.
Goggles ne l'attendit pas, et les muscles crispés en un suprême effort, parvint à atteindre la cime de la falaise. Il rencontra le vieux matelot maori que Jim Fatt avait laissé sur la goélette et qui, inquiet de ne voir revenir personne, était venu aux nouvelles.
Goggles, moitié par signe, lui raconta la tragédie de la nuit et regagna avec lui la Papakura. Le lendemain, la goélette mouillait dans le port d'Auckland.
Arthur Goggles s'étant lavé, s'en fut aussitôt à terre.
Boitillant, il pénétra chez le premier bijoutier qui s'offrit à sa vue et la figure fendue d'un large sourire, arracha la pépite de sa ceinture et la tendit au commerçant en disant « Elle est belle, hein? Combien m'en donnez-vous ?»
Le joaillier saisit le bloc de métal et après l'avoir examiné d'un œil dédaigneux, le rendit aussitôt à Arthur Goggles en disant « Tous mes regrets, mon ami, lisez sur ma devanture, je n'achète que l'or et l'argent, jamais le cuivre. Adressez-vous à un plombier, peut-être vous donnera-t-il un shilling de ça. »
Ainsi s'achève « Les crabes bleus de Miami » par José Moselli.